La Bible nous dit que le roi Salomon a fait de nombreux proverbes et des sermons sur les arbres, sur les végétaux, sur les animaux. Ça, c'est dit en 1 Roi 5, 9. Alors, dans la Bible, on trouve en effet quelques proverbes attribués à Salomon à ce sujet, et en particulier dans le proverbe 24, on a un mot sur le miel, très bien. Mais je n'ai trouvé nulle part de sermon de Salomon sur les abeilles. Alors en fait, si, il faut chercher un peu mieux. J'en ai trouvé quand même un, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Parce qu'en effet, vous savez que l'Ancien Testament est en hébreu, il y a eu une traduction grecque faite, dite des Septante, dans l'Antiquité, et dans la version grecque de l'Ancien Testament, après Proverbe 6, où il est question de la fourmi, il y a un mot sur les abeilles qui est très important. Voici cette lecture, Proverbe 6, 6. Donc dans notre Bible, on a ça, « Va vers la fourmi ». Toi qui es paresseux, considère ses voies, deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et là, il y a un ajout dans la version grecque que je vous lis. Ou bien encore, va voir l'abeille et apprends comme elle est travailleuse, comme son travail est digne de notre respect. Car les rois et les infirmes usent pour leur santé du fruit de son travail. Or, elle est glorieuse et désirée de tous, mais si petite qu'elle soit, on l'honore parce qu'elle apprécie la sagesse. » Alors, j'aime particulièrement les abeilles, vous le savez, puisque je les soigne et je m'en occupe, ce qui fait que dans les questionnaires, quand on demande « Combien avez-vous d'animaux de compagnie ?», j'ai le plaisir de répondre entre 30 et 50 000. Mais néanmoins, nous n'avons pas trouvé de sermon de Salomon. Et qu'est-ce que Salomon pouvait dire sur les abeilles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les abeilles ont inspiré de très nombreux penseurs et des philosophes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas toujours de grande teneur, mais je vais quand même vous le dire rapidement. D'abord, dans l'Antiquité, ce que l'on voyait, c'était que l'abeille et sa colonie bien organisée, on la considérait comme un modèle social. En effet, on a une société bien organisée autour d'un roi, parce qu'à l'époque, on croyait que la reine était un roi, maintenant on sait qu'elle est féminine, d'un roi ou d'un pape. Et donc, on voyait là une image idéale de l'Église, qui est pacifique, une société bien organisée, travailleuse, organisée autour de son pape. Bon, on y a vu aussi dans l'abeille un modèle moral. L'abeille, elle est courageuse, elle est travailleuse, elle est désintéressée, et chacune travaille pour son bien, pour le bien collectif, et chacune est même prête à se sacrifier pour défendre le groupe, puisque quand une abeille pique, elle meurt. C'est tout à fait remarquable. Alors, ces considérations morales, je crois qu'il ne faut pas les pousser trop loin parce que, à ce petit jeu, on peut défendre à peu près n'importe quoi. Et en particulier, ça a même servi parfois à défendre le modèle communiste, ce que je ne saurais faire. Et donc, en effet, on voit que dans une ruche, chacun travaille pour la collectivité sans avoir de salaire, le rêve de tout dirigeant communiste. Et puis, pendant qu'on y est, encore plus subversif, on se rend compte que l'affaire est finalement bien compliquée, puisqu'il y a même des gens qui ont réussi à tirer de l'image d'une colonie d'abeilles tout le contraire de ce que l'on considérait comme moral. Et ça, c'est une affaire qui m'amuse beaucoup, qu'on appelle la fable des abeilles de Mandeville. Mandeville était un philosophe protestant, d'ailleurs, du XVIIIe siècle, et qui, lui, a dit, en fait... Une colonie d'abeilles, c'est assez étonnant parce qu'on dit que les abeilles sont altruistes. Il dit, mais pas du tout. Chaque abeille fait juste ce qui lui convient. Il se trouve que c'est l'accumulation, je dirais, d'intérêts personnels qui font l'intérêt collectif. Et Mandeville expliquait que finalement, même les vices privés de chaque personne peuvent, en quelque sorte, rendre participer au bien collectif. Donc vous voyez que ça m'amuse parce qu'on quitte l'aspect moralisateur, mais Mandeville explique que, par exemple, le libertin, c'est du langage du XVIIIe siècle, le libertin qui est tout à fait moralement réprouvable, finalement, il participe au bien de la collectivité par son égoïsme et malgré lui, parce que le libertin donne du travail aux artisans qui lui font des beaux objets et qui fournissent ses loisirs et qui font des beaux repas, qui lui font ses maisons, qui lui font tout son luxe et que tout ça, finalement, fait travailler énormément de gens. Et donc le libertin, dans son immoralité, en fin de compte, eh bien, permet une croissance économique, ce dont rêve tout bon politique. Et c'est vrai que, si on regarde les choses de près, admettez que dans notre société, tout le monde devienne honnête du jour au lendemain. Économiquement, ce serait une catastrophe, parce qu'il n'y aurait plus besoin de policiers, plus besoin de prison, plus besoin de juges, plus besoin d'avocats, plus besoin de barrières, plus besoin de portes, plus besoin de verrous, plus besoin de rien. Enfin, ce serait économiquement catastrophique. Donc finalement, les voleurs sont économiquement extrêmement intéressants pour la société. Bon, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans ce type de choses. Je laisse la question posée, mais je vous dis juste que la lecture moralisatrice des abeilles ne me semble pas forcément la plus intéressante. Les pères de l'Église, quant à eux, dans l'Antiquité, étaient eux restés à 100% dans l'aspect moralisateur. Je ne vais pas tous vous les citer. Le comble de celui-là, le pire, dirais-je, c'est un sermon, un pseudo-sermon de saint Augustin. Alors, ça, pseudo-sermon, parce qu'on sait que ce n'est pas saint Augustin qui l'a écrit, et qui dit « Les abeilles sont formidables parce qu'elles produisent de la cire qui servent pour les cierges et pour la dévotion. » Et puis qu'il y a une reine, alors lui savait qu'il y avait une reine, mais il ne savait pas que la reine se faisait féconder. Donc il croyait que la reine restait toujours dans la ruche et que par conséquent elle donnait naissance à des tas d'enfants par une sorte de procréation virginale. Formidable. Et puis que c'est l'image d'une communauté comme, qui vivent comme des moines. Enfin, il trouvait ça absolument étonnant. Bon, heureusement qu'on a découvert que ce n'est pas saint Augustin qui avait dit de telles platitudes. Ce n'est pas très intéressant. Mais pendant qu'on y est, je finirai là-dessus, sur l'aspect moral. Là, je suis un peu plus partant. C'est que certains ont même dit que par le fonctionnement des colonies d'abeilles, on pouvait même justifier la réforme. Vous voyez, on tire tout ce qu'on veut des abeilles. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous le savez, les colonies d'abeilles se multiplient par essaimage. C'est-à-dire que quand une colonie est forte, il y a une reine qui part avec la moitié de la colonie qui va créer une autre colonie. Et que c'est le moyen que les abeilles ont trouvé pour développer leur race, autrement dit. Et que si tout le monde restait dans la même ruche, eh bien, ça ne se développerait pas. Eh bien, certains ont dit, voyez, en fait, la réforme, c'est ça. C'est une forme d'essaimage, et que l'essaimage, c'est une chance supplémentaire pour que les abeilles puissent coloniser d'autres espaces que la ruche mère n'était pas capable de coloniser. Donc ce développement par essaimage me semble très bien. Et puis le seul, bon, dans tous les pères de l'Église, le seul qui me convainc un peu, c'est, comment il s'appelle, Clément d'Alexandrie, au IIe siècle, qui lui dit quelque chose à propos de l'abeille que j'utilise souvent quand certain nombre de personnes viennent me dire qu'il dit « Ah, mais dans la Bible, il y a des versets que je n'aime pas, il y a des choses qui ne sont pas bonnes ou qui m'amènent des tas de passages qui ne leur plaisent pas ou qui me disent « Dans l'Église, il y a tel ou tel problème. » Eh bien, Clément d'Alexandrie avait la réponse et il disait « En fait, le chrétien doit travailler comme une abeille qui butine. » C'est-à-dire, promenez-vous dans les textes bibliques. Et s'il y a un texte qui vous plaît pas, passez votre chemin, tout simplement. Et quand vous trouvez un texte qui vous plaît, prenez là tout ce qu'il y a de précieux et qui vous plaît. Quand une abeille passe au-dessus d'une crotte de chien, elle s'arrête pas en disant « Mais quelle horreur, que ça sent mauvais, c'est affreux !» On passe son chemin. Et donc, dans la Bible, il faut faire comme ça. Il faut se promener dans les textes. Et il y a plein de textes qui nous disent rien. Et de temps en temps, toc, on en trouve un. Et là, on ramasse le meilleur et on le garde pour soi. Cette image du butinage me plaît parce qu'on peut le comprendre comme une façon de lire la Bible, et c'est comme ça que je la lis, mais Clément d'Alexandrie allait plus loin en disant que même on doit le faire sur toute la dimension intellectuelle de notre quête, et qu'on n'est pas obligé d'avoir une source unique de nectar qui serait uniquement l'enseignement de l'Église. Mais il dit, il faut aller partout, écouter les philosophes, aller écouter les pères de l'Église, écouter tous ceux qui ont parlé sur l'Écriture, et même peut-être leurs détracteurs, et de tout cela, faites votre miel et faites quelque chose de cohérent, sélectionnez le meilleur pour vous en nourrir, pour le transformer et pour en faire une bonne nourriture. Donc c'est une lecture, une vision non dogmatique vous voyez, de l'approche spirituelle et théologique, et ça, c'est remarquable. Mais bon, cela dit, je ne m'arrêterai pas sur cet aspect moral. Peut-être que c'est une des explications pour laquelle il y a toujours eu un tel rapprochement entre l'Église et les abeilles. En effet, la plupart des grands apiculteurs ont été soit des pasteurs, soit des prêtres, et en particulier la ruche moderne, la ruche à cadre mobile, qui a été un progrès considérable dans l'apiculture, a été inventée au même moment aux États-Unis par un pasteur, le révérend Langstroth, et en Europe par un prêtre, l'abbé Warré. Alors, lequel des deux a découvert la ruche à cadre mobile? Je prétends que c'est le pasteur Langstroth, mais je vous laisse la liberté de penser que c'est l'abbé Warré, puisque personne n'en sait rien. En tout cas, il y a toujours eu un lien très proche entre les églises et les abeilles et l'apiculture, et peut-être à cause de cet aspect moral, peut-être pour des raisons pratiques, parce que la cire, effectivement, l'église consommait beaucoup de cire, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la Bible, l'abeille a un rôle considérable. Et en bon réformé que je suis, je dirais, allons chercher dans l'Écriture ce que la Bible nous dit de l'abeille. Alors là, dans la Bible, c'est assez simple à premier abord, puisque l'abeille est surtout vue par ce qu'elle produit, c'est-à-dire du miel. Et le miel est une image même de la douceur. Vous le savez, on parle de la terre promise comme du pays où coulent le lait et le miel. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le miel, vous disais-je, c'est la douceur, et la terre promise, c'est pas un lieu politique, la terre promise, c'est ce que Dieu nous promet quand on est dans sa présence, on est dans une sorte d'état spirituel, et que l'état de la présence de Dieu, la plénitude de sa présence, eh bien ça nous nourrit de miel, c'est-à-dire c'est une nourriture d'abord source d'énergie, de force, de plein de bons sucres, et puis c'est aussi infiniment doux et agréable, et je crois que la présence de Dieu nous donne tout cela. Avec autre chose, le psaume 81, verset 17, où le psalmiste dit que où Dieu lui-même dit « Mais écoute, Israël, je les nourris gratuitement à partir du miel des rochers. » Ça, c'est autre chose. C'est que le miel, si vous savez le chercher, il est gratuit. Alors, moi, je vous le vends, mais il est gratuit parce que vous pouvez aller dans la nature et si vous êtes débrouillard, vous pouvez trouver du miel et les abeilles ne font pas payer leur miel. Et donc, le miel, il est gratuit. Et donc, c'est une source incroyable de la grâce de Dieu qui justement n'est pas tarifé. Mais en même temps, c'est pas si simple. Parce que je vous disais qu'il est gratuit, mais à condition de se donner la peine d'aller le chercher. Et là, c'est pas facile. Pas commode du tout. Parce qu'en effet, le miel, il a beau être doux et gratuit, il tombe pas tout seul dans la tartine. Et dans la nature, si vous y allez, vous trouverez pas les pots de verre tout faits. Et comme au supermarché, il va falloir le récolter, et ça n'est pas simple. Et là, il y a quelque chose qui me semble très parlant, parce que c'est la même chose pour la présence de Dieu. La foi, la présence de Dieu, tout ce que peut nous apporter la relation à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux et de gratuit, mais on ne peut pas le trouver en supermarché. Ça suppose une démarche personnelle, une quête pour y parvenir. Il faut se donner du mal, il y a du travail. Et donc, c'est pas juste d'attendre passivement que le miel tombe tout seul sur votre pain, et vous pourriez attendre de la même manière tout seul que Dieu vous donne la foi. Ça peut arriver, mais en tout cas, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Il faut chercher, il faut quêter, il faut se donner du mal, c'est pas si simple. Alors, où le chercher, ce miel? Eh bien, où le chercher et comment le trouver, ce doux miel? La Bible nous donne un indice. L'indice, c'est que le miel est fait par les abeilles. Or, les abeilles, une abeille en hébreu, pas un sermon de ma part sans qu'il y ait au moins une petite leçon d'hébreu, vous l'aurez aujourd'hui. L'abeille en hébreu, ça se dit Déborah. Déborah, c'est un prénom. C'est le prénom d'une des filles de notre organiste titulaire, Lisbeth, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est souvent là. Déborah, ça veut dire l'abeille. Très bien, et c'est le féminin du mot hébreu « dabar », et « dabar », ça veut dire « la parole ». Et donc Déborah, c'est Dabar avec un H à la fin, qui est l'initial de Dieu, pourrais-je dire. Donc Déborah, c'est la parole de Dieu. Donc voilà ce qui fournit cette douce présence de Dieu, c'est la parole. Et je crois qu'en méditant cette parole que Dieu nous donne, eh bien nous pouvons progressivement butiner justement cette source d'énergie et de douceur et la constituer une réserve de quelque chose qui peut nous grandir. Et cette parole, elle peut sembler petite et méprisable, mais il ne faut pas la considérer comme rien. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans ce passage des Proverbes 6, dans la version grecque, où il dit, tu vois, cette parole, cette abeille qui est si petite, mais qui produit tellement de choses merveilleuses, et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle apprécie la sagesse, et ce qu'on appelait la sagesse dans l'Ancien Testament, c'est l'enseignement, c'est la parole. Donc c'est bien tout à fait cohérent. Simplement, ce n'est pas si simple, parce que une particularité que je n'ai pas encore évoquée, c'est que l'abeille, ça pique. Donc le miel, c'est doux, mais l'abeille, c'est que c'est un peu piquant. C'est pour ça d'ailleurs que certains passages de la Bible présentent l'abeille comme pas forcément quelqu'un de doux. Le psaume 118, verset 12, dit « Je suis environné, les païens m'environnent et me veulent du mal comme un essaim d'abeilles ». Et donc là, les abeilles sont montrées comme potentiellement dangereuses. Et donc, aller récolter du miel, c'est difficile, voire dangereux. Et pour ça, il faut de la méthode, il faut un équipement, il faut du courage, il faut une certaine formation, il faut un savoir-faire. Sinon, on risque de ne rien trouver du tout. Et je crois que c'est vrai pour notre lecture de la Bible. C'est que si vous vous lancez tout seul dans la lecture de la Bible, vous pouvez commencer la Genèse, vous allez tomber sur des généalogies à l'infini, vous allez juste rien trouver du tout, ou vous dire c'est très ennuyeux, ou tomber sur des passages que vous trouverez scandaleux en disant mais comment, Dieu qui est vengeur, Dieu qui punit, c'est pas possible, ou vous tomberez sur, dans l'Évangile, des miracles absolument abracadabrants et vous jetterez votre Bible en disant ça ne sert à rien. Eh bien, je crois qu'il n'est pas plus facile de lire la Bible tout seul qu'il n'est de prétendre se faire soi-même apiculteur sans avoir rien appris de personne. On peut y arriver, mais je crois que c'est assez compliqué et on risque surtout de se dégoûter soi-même. Et donc il faut, je vous disais, comme pour le miel, il faut de la méthode, il faut apprendre, il faut réfléchir, il faut un certain savoir-faire et se faire entourer de gens qui ont une certaine expérience. Voilà. Et puis après, dans tous les cas, vous disais-je, il faut du courage. Oui, il faut du courage, je crois. La parole de Dieu n'est pas une chose sirupeuse, c'est pas une chose facile, qui ne poserait aucun problème. C'est quelque chose qui n'est pas évident. La parole de Dieu peut parfois être piquante. Quand on lit l'Évangile même, ben, je ne sais pas si vous le lisez, mais ce n'est pas uniquement « peace and love, mes frères, tout le monde est gentil, tout le monde va bien ». Il y a des passages qui nous provoquent. Quand Jésus dit au jeune homme riche « vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi », ben, ça pique. Ben oui, ça pique un peu beaucoup même. Hein. J'en fais quoi de ça? Et donc, il y a plein de passages comme ça qui sont quand même très compliqués. Et autrement dit, c'est pas facile du tout. C'est le propre de tout le sermon sur la montagne au début de Matthieu qui vraiment est difficile à avaler, hein, vous dirais-je. Et donc oui, cette approche de la parole de Dieu est quelque chose de compliqué. Et il y a, pour récolter le miel, trouver cette douceur, eh bien auparavant il y a une sorte de combat avec les abeilles qui est un combat pacifique mais qui n'est pas si simple. Et moi je trouve que ça donne de l'intérêt à la chose. Je suis convaincu que l'apiculture n'aurait beaucoup moins d'intérêt si les abeilles ne piquaient pas. C'est un peu paradoxal, mais si les abeilles ne piquaient pas, je pense que je ne m'occuperais pas des abeilles. Ce qui m'intéresse, c'est justement ça, cette espèce de dualité. C'est compliqué, il faut faire attention, il faut se protéger, il faut travailler avec intelligence. Et c'est paradoxe, c'est pour moi absolument passionnant, parce que justement, c'est comme la lutte de Jacob avec l'ange. Vous savez, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Jacob lutte avec l'ange et il en sort boiteux, mais béni. Et en fait, Il n'y a pas beaucoup de choses dans notre vie que l'on puisse gagner, qui soient merveilleuses sans que l'on ait un peu souffert. C'est pas misérabiliste que je dis, mais sans qu'on se soit un peu donné de mal, si vous voulez. Et Jacob lutte avec l'ange, c'est-à-dire qu'il lutte avec la parole de Dieu, il lutte avec ce texte, il lutte avec cette Bible, et il en sort un peu boiteux, mais béni. Comme moi, j'en sors un peu piqué, mais heureux de pouvoir fournir du bon miel. Alors cette dualité, elle est intéressante, effectivement, comme dans l'Apocalypse, où il dit « mange le livre ». Donc vous voyez, le miel, il dit que ce livre, il est doux comme du miel. Donc j'avais raison quand je vous disais le miel, c'est fait par Déborah, l'abeille, la parole. Et dans l'Apocalypse, il faut qu'il mange cette parole. Et il dit « dans ta bouche, ça va être doux, mais dans tes entrailles, ça va être un peu amer ». Donc il y a à la fois cette amertume, qui n'est pas compas simple, et cette douceur. Alors cette amertume, vous disais-je, soit c'est une amertume qui est dérangeante, parce que quand je lis qu'il faut donner, qu'il faut penser aux autres avant soi-même, bah, pour mes entrailles c'est un peu dérangeant. Donc oui, c'est amer pour ma dimension égoïste. Ou alors il y a de l'amertume parce que, vous disais-je, le texte n'est pas simple, et que donc ça beau être doux, c'est quand même aussi pas toujours facile. Mais cette dualité entre l'amertume et la douceur me plaît beaucoup, et pas simplement parce que l'Apocalypse dit que ça peut avoir l'amertume de l'absinthe, ce qui me plaît parce que dans la famille Pernod, on a fabriqué de l'absinthe, mais nos cousins avec un OD ont eu plus de succès que les Pernod OT, mais néanmoins, il y a de l'absinthe Pernod qui fabriquait de l'amertume, et comme moi je fais du miel, ben, dans Pernod, on a un peu les deux. On a à la fois l'amertume et la douceur. Mais justement, cette dialectique entre l'amertume et la douceur, c'est aussi toute la vie chrétienne. La présence de Dieu, ce n'est pas juste un molle oreiller qui dit « c'est bon, tout va bien ». C'est aussi un aiguillon qui nous stimule, qui nous fait avancer. C'est aussi un combat dans la vie. La foi n'est pas que de la douceur. Il y a énormément de douceur, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas simple pour notre égoïsme, pour notre vieille nature ou simplement même dans la vie. Et cette ambiguïté, cette dialectique, on la trouve aussi dans Déborah. Je vous ai dit que c'était un prénom dans ce nom-là. Déborah, dans la Bible, c'est une prophétesse. Alors, j'ai pas le temps de vous lire l'histoire, vous la chercherez. C'est une des rares femmes prophètes de l'Ancien Testament et la seule femme qui a été juge en Israël. Bon, et quand on lit sa vie, on voit que sa vie, il y a eu énormément de violence dans sa vie, c'est assez curieux. Mais pourtant, elle ramène la paix pour Israël pour 40 ans. Donc c'est formidable, voilà. Donc il faut un peu des deux, vous disais-je, il faut un juste équilibre entre le piquant et le doux, entre l'amertume et la douceur. Alors quel est l'équilibre? Je ne sais pas. La foi ou la vie ne doit pas être juste de la douceur émolliente, ça ne doit pas être juste de la violence, de la brutalité qui n'apporte rien. Le but, c'est quand même la douceur, mais en même temps, il faut un peu les deux. Et je pense que d'ailleurs, dans notre vie concrète, c'est aussi un peu ça. Notre vie, elle nous apporte des piqûres, elle nous apporte du miel. Et il y a un peu les deux dans notre vie, hein, indépendamment de la foi. Et la leçon pour moi, vous donner un petit conseil d'apiculteur, eh bien, nourrissez-vous du miel et les piqûres, oubliez-les. C'est assez simple, hein, c'est une petite leçon de développement personnel à dessous, mais néanmoins, ça fonctionne pas mal. Et donc, oubliez les piqûres et gardez le miel. Voilà, ça c'est la base. Parce que le but de l'apiculture, c'est pas de se faire piquer, c'est de produire du miel. Voilà. Maintenant, c'est certain que c'est difficile de prétendre faire du miel sans se faire piquer. Mais patience. Et puis, ça n'empêche pas d'être intelligent. Protégez-vous quand même. Hein. Le but, c'est pas de se faire piquer. Donc, mettez-vous à l'abri. Évitez, tant que possible, les piqûres de la vie. C'est pas une faiblesse que d'éviter les situations ou les personnes qui vous font du mal. Mais il ne faut jamais renoncer à chercher ce qui est doux et ce qui est bon. Parce que la douceur du miel fait oublier les piqûres. Et je pense que peut-être qu'il faut voir sa vie comme ça aussi positivement. De même que, vous disais-je, le but de l'apiculture, c'est quoi? C'est de se faire piquer ou de récolter du miel? Ben, c'est de récolter du miel. Alors nourrissez-vous de ce qui est bon, de ce qui est plein de douceur, nourrissez-vous de cela, ce miel de votre vie, les bons moments, les grâces de votre vie. Et Dieu sait si la présence de Dieu peut être une source continue et permanente de douceur, de miel dans toute situation. Nourrissez-vous de cela et ça peut permettre de supporter bien des choses. Et puis ça peut aussi en avoir pour soi, mais si vous en récoltez plein, vous en aurez aussi à redonner aux autres. Et ça, c'est une deuxième source encore plus extraordinaire. Tenez, c'est même d'ailleurs une autre manière de voir la mission du Christ, qui finalement, le Christ, il est comme l'apiculteur qui accepte de se faire piquer pour donner ce doux miel aux autres, sans que eux aient la peine ou le danger de le chercher eux-mêmes. Le Christ a accepté de souffrir pour nous donner la grâce. Il s'est confronté lui-même au mal, à la violence, à la haine, à la souffrance, à la mort, pour nous donner gratuitement la grâce, le pardon et l'amour. Et autrement dit, il a souffert pour nous, à notre place, pour que nous ayons gratuitement toute la douceur de Dieu qui soit versée pour nous. Ainsi, n'y a-t-il plus à voir notre vie spirituelle comme un acte d'héroïsme, mais en fait, notre vie spirituelle, c'est juste de recevoir, c'est d'accepter, de prendre ce pain au miel qui nous est tendu pour que nous le mangions. Après, manger le miel et le rayon, vous le recrachez, il y a aussi toujours un petit travail à faire, hein, mangez pas tout en même temps. Mais par là, la mort est vaincue et il n'y a plus rien pour nous menacer. Voici ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. La mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, mais la puissance du péché, c'est la loi, et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.